Dans un article qu'il a écrit dans la Review and Herald il y a plusieurs années en arrière, Richard Hammond raconte ce qui lui est arrivé dans un magasin, un jour où il y est allé pour chercher un nouveau costume. Il raconte qu'il est rentré dans le magasin et qu'à peine rentré, un vendeur s'est approché de lui, un vrai vendeur. Vous voyez ces vrais vendeurs qui vous vendraient du sable au Sahara, hein? Un vrai vendeur s'est approché de lui, lui a demandé ce qu'il cherchait. Il dit, écoutez, moi je cherche un costume qui puisse m'aller. Il dit, venez ici, je vais vous montrer les costumes de votre taille. Et puis il lui a passé une première veste qui de toute évidence ne lui allait pas. Il dit, non, cette veste ne vous va pas du tout, c'est pas ça qu'il vous faut. Il en prend une autre, et il l'ajuste sur lui, il enlève les petits fils qui traînent encore. Il l'attache, il dit, non, ça c'est un peu trop long, les épaules tombent pas très bien. On va vous en trouver un autre. Il regarde, il cherche. Finalement, il prend un autre costume, il lui passe, il dit, ah ça vous va à merveille. Et effectivement, Richard Hammond disait qu'il était vraiment bien dans cette veste-là. Il se sentait bien. Le vendeur a vu que ce veston-là lui plaisait bien. Alors il dit, voyez, ça tombe parfaitement bien. C'est la bonne longueur pour vous. Vous avez vraiment de l'allure dans ce vêtement. C'est exactement ce qu'il vous faut. D'ailleurs, vous voyez, derrière, ça tombe bien. Devant, c'est parfait. La longueur des manches, c'est impeccable. Puis tout d'un coup, l'auteur s'est dit, oui, mais le prix de ce vêtement-là, c'est combien? Alors, le marchand, comme s'il s'agissait d'un détail, a cherché l'étiquette dans un coin pour dire le prix. Ah oui, c'est seulement tel prix. Et Richard disait, oui, évidemment, c'était 10 fois trop cher pour moi. Il n'était absolument pas question d'acheter un vêtement à ce prix-là. Le vendeur lui enlève et puis lui en passe un autre en polyester, quelque chose qui lui allait plus ou moins. Et puis il lui en met un autre en lin qui n'allait pas, qui n'avait aucune tenue. Et puis il lui en essaye un autre encore en tweed, tous des vêtements qui n'allaient pas vraiment. Il en essaye plusieurs et puis finalement, comme pour donner l'impression qu'il va lui laisser le libre choix dans toute cette affaire, le vendeur s'est éloigné, il a été vers la caisse, il a fait d'autres choses et il a laissé Richard Hammond avec tous ses costumes. Comme pour le lui laisser croire qu'il était libre de choisir ce qu'il voulait. En voyant l'attitude du marchand, il s'est rendu compte que cet homme était en train de lui vendre non seulement un costume, mais de lui vendre l'idée que l'habit fait le moine. Un personnage comme vous, si vous voulez être quelqu'un, habillez-vous comme quelqu'un qui a de l'allure. Votre vêtement va faire votre personnage. Le vendeur voulait non seulement lui vendre un vêtement, mais cette idée que c'est le vêtement qui va créer le personnage. C'est sûr qu'il avait envie de ce beau costume en laine qui lui allait parfaitement. Mais le prix, c'était hors de question. Alors il avait fait exprès ce vendeur de lui montrer tout un tas d'autres vêtements qui n'allaient pas vraiment, c'était évident, pour le pousser à acheter ce vêtement cher qui lui allait si bien et qui lui plaisait, il avait remarqué. Le jeu de cet homme était en fait de lui faire comprendre qu'en choisissant son vêtement, il choisissait aussi son personnage. Nous disons que l'habit ne fait pas le moine, mais dans un sens, il le fait quand même un peu. Le problème du vêtement n'est pas un problème nouveau, on le trouve depuis toujours. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé, vous aussi, en voyant un vêtement dans un magasin, de vous dire « je ne pourrais jamais mettre ce vêtement-là » Tout simplement parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre goût, ce n'est pas votre habitude, ça ne semble pas à votre personnalité. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé aussi de vous retrouver un matin en pyjama devant votre armoire et de vous dire « bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois mettre ?» Alors, vous allez choisir votre vêtement en fonction de ce que vous devez faire. Vous allez peut-être choisir votre vêtement en fonction de ce que vous devez être ce jour-là. Ou en fonction de ce que l'on va attendre que vous soyez ce jour-là. Et on va choisir le vêtement en fonction de ça. Vous vous souvenez de cette phrase de Saint-Exupéry : on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible. Pour les yeux. Dans le même petit livre, Le Petit Prince, Saint-Exupéry raconte cette histoire d'un renard qui veut être apprivoisé par le petit prince. Et le renard dit au petit prince, « Si tu veux m'apprivoiser, eh bien, viens me voir tous les jours, au bout du champ, là. Et chaque jour, tu viendras t'asseoir un petit peu plus près de moi. Et puis un jour, on sera assis l'un à côté de l'autre. Tu m'auras apprivoisé. » Et le petit prince est venu. Mais il est venu à n'importe quelle heure du jour. Alors le renard lui dit, « Mais voyons, viens au moins toujours à la même heure. Si tu viens à des heures différentes, je ne saurai pas quand je dois m'habiller le cœur. » Et la question est la suivante aujourd'hui, comment allons-nous habiller notre cœur? L'exemple du vêtement, c'est un exemple de l'extérieur, bien entendu, mais au-delà du vêtement extérieur, il y a ce vêtement intérieur dont nous habillons notre cœur. Parfois, le vêtement extérieur va être différent ou compensé par rapport à celui de l'intérieur. Il y a parfois un lien entre celui du dehors et celui du dedans. Parfois, celui du dehors est le contraire de celui du dedans. Mais comment allons-nous nous habiller le cœur? À qui aujourd'hui voulons-nous ressembler? Quel personnage voulons-nous avoir? Quels vêtements allons-nous porter intérieurement aussi? Et je pense à cette histoire de vêtements que l'on a dans les Écritures, et qui reprend ce problème de fond, avec quoi habiller notre cœur. Cette histoire se trouve dans le livre de Josué au chapitre 7, une histoire que vous connaissez bien, et ce texte nous rapporte que le peuple d'Israël, après ses 40 ans dans le désert, se trouve à la porte de la terre promise, Canaan. Après avoir traversé le Jourdain, ils ont devant eux une forteresse, Jéricho. Et vous vous souvenez comment le texte nous raconte que la ville de Jéricho a été prise d'une manière assez extraordinaire. Le peuple, précédé de l'Arche de l'Alliance, précédé des sacrificateurs avec 7 trompettes, le premier jour a fait une fois le tour de la ville, et puis le deuxième jour a fait une fois le tour de la ville, et ainsi pendant 6 jours. Jusqu'à ce qu'au 7e jour, ils fassent le même parcours, mais cette fois-ci, ils l'ont fait 7 fois. À la 7e fois, le peuple s'est mis à crier et ça a suffi pour que les murs tombent, que la ville s'écroule, par la puissance de Dieu, bien sûr. Et le texte nous dit que chacun est allé devant lui pour prendre la ville. Josué avait donné des indications précises, disant que cette ville était dévouée par interdit. Tout le butin qui était pris dans cette ville était dévoué au trésor de l'Éternel. Personne ne devait rien prendre. La ville a été prise. Tout le monde est retourné dans son camp, heureux de cette victoire que Dieu avait donnée. Et puis on a envisagé la petite ville de Haï, qui était juste un petit peu plus loin. Un petit village de rien du tout. Josué, d'ailleurs, reçoit ses instructions selon lesquelles, de toute façon, c'est même pas la peine d'amener le peuple entier, il suffit de 3000 personnes. 3000 soldats y vont et n'en font qu'une bouchée. 3000 soldats vont pour prendre la ville de Haï. Et là, c'est la débâcle. 36 hommes d'Israël se font tuer, les autres se sauvent, et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? On a fait tomber cette forteresse imposante qu'était Jéricho, et ce petit village de 3 fois rien du tout, voilà qui met notre armée en déroute. Et Josué va passer la journée prosterné devant l'Arche de l'Éternel, en demandant, Seigneur, que se passe-t-il? Et finalement, Dieu va s'adresser à Josué et lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là par terre? Lève-toi. » Le problème, c'est qu'il y a un interdit dans le camp. Et il va même dire, « Ils ont transgressé mon alliance. » L'Éternel va expliquer à Josué qu'il y a là quelqu'un qui a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et Dieu va expliquer à Josué que le peuple doit passer devant lui. Il va désigner une tribu parmi les 12. Et puis dans cette tribu, il va désigner une famille. Et puis dans cette famille, il va désigner un individu. Et c'est ce qui arrive. Le peuple passe devant Josué et Dieu va désigner la tribu de Juda. Et puis une famille. Et finalement, va désigner Achan. Et j'aimerais relire avec vous dans le livre de Josué, au chapitre 7, la réponse que Achan va faire à Josué, qui va lui demander, mais qu'est-ce qui se passe avec toi ? C'est dans le livre de Josué, au chapitre 7, au verset 20. Josué chapitre 7, verset 20, il est écrit ceci. Acan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 sicles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessus. » Acan va finalement avouer, après avoir été désigné comme la cause de cette transgression du peuple entier, Acan va dire ce qu'il a fait. « J'ai vu un beau manteau. » Le texte dit « J'ai vu un manteau, il était très beau. » Et je l'ai pris. Et puis il y avait de l'argent. Il a caché tout ça dans sa tente et il a mis le manteau par-dessus. Vous connaissez la punition qui sera infligée à Acan. Cette punition d'ailleurs est en proportion avec la signification de son geste. Il a convoité un manteau, mais pas n'importe quel manteau, c'est un manteau, nous dit le texte, de chinéar, comme si le détail avait un intérêt particulier. Et si vous lisez dans votre Bible en anglais, le texte dit simplement « un manteau de Babylone », car c'est de cela qu'il s'agit. Un manteau de Babylone. Et là, tout d'un coup, le symbole est beaucoup plus clair. Il a convoité ce manteau de Babylone. Il le voulait pour lui. Le manteau est depuis très tôt dans les Écritures ce symbole du pardon que Dieu accorde aux pécheurs. On peut faire référence, par exemple, vous vous souvenez de ce texte dans le livre de la Genèse, tout au début, au chapitre 3. Vous vous souvenez qu'au chapitre 3 de la Genèse nous est rapportée cette histoire désastreuse du péché de Adam et Ève, qui vont être finalement chassés du jardin d'Éden à cause de leur péché, parce qu'ils ont coupé leur relation avec Dieu. Et il est au verset 21 de ce chapitre 3 une parole intéressante que j'aimerais relire avec vous. Il est dit, Genèse chapitre 3, verset 21, « L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. » Vous vous souvenez que Adam et Ève, confrontés avec la culpabilité de leur péché, ont voulu se faire des vêtements. Ils les ont fait avec ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire des feuilles, nous dit le texte. Ils se sont fait des ceintures avec des feuilles. Des ceintures avec des feuilles, ça se flétrit, ça tombe rapidement. Ce n'est pas un vêtement, ça. Mais le texte nous dit que Dieu lui-même va leur donner des habits de peau. Et aujourd'hui encore, on porte des vêtements en cuir, parce qu'un vêtement en cuir, ça tient le coup. Mais c'est Dieu qui le leur donne. Et pour que Dieu puisse donner un vêtement en peau, il a fallu tuer les animaux qui ont cette peau sur le dos. On découvre ici que Dieu a donc fait le premier sacrifice. Et que de ce sacrifice, Dieu a tiré la peau dont il les a revêtus. Se trouve là toute l'image, le contraste même entre le plan du salut de Dieu et le plan du salut des hommes. Le plan du salut des hommes qui se font des vêtements de feuilles ne tient pas. Ce n'est pas une solution. C'est une solution apparente pour un moment, elle n'a pas de valeur. La seule solution qui est valable à long terme et qui apporte la solution au problème du péché, ce sont les vêtements de peau que Dieu va donner et qui sont le fruit d'un sacrifice que lui-même va faire. Et l'on retrouve dans ce texte, tout au début des Écritures, le sacrifice de Jésus, le sacrifice par lequel nous pouvons être couverts, pardonnés de nos péchés. Seulement, vous savez comment dans les Écritures, dans le livre du prophète Daniel et dans l'Apocalypse aussi, il est question de Babylone comme étant le symbole même du plan du salut selon les hommes, du salut selon nos œuvres, selon ce que nous sommes capables de faire. Nebuchadnezzar, dans le livre du prophète Daniel, va être le prototype du Babylonien parfait qui se glorifie lui-même, qui se prend pour Dieu et qui demande à tout le monde d'adorer ce qu'il a fait. On retrouve dans l'Apocalypse la grande prostituée. Les symboles repris dans les Écritures contenant Babylone sont l'expression de ce plan du salut que l'homme a mis sur pied par lequel l'homme s'exalte lui-même, met en évidence ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire comme une raison suffisante pour qu'il soit sauvé. Par opposition avec le plan du salut de Dieu, qui nous rappelle que nous sommes pécheurs, condamnés à mort de toute façon, et que le seul moyen de vivre est de recevoir le plan que Dieu lui-même a mis sur pied en Jésus-Christ, par son sacrifice et par ce qu'il nous donne, que nous n'avons même pas besoin de gagner parce que nous n'en avons même pas les moyens. Ainsi, à quand a convoité ce manteau de Shinéar, ce manteau de Babylone? Or, il avait sûrement ce manteau une bien plus belle allure que le manteau qu'il a traîné pendant 40 ans dans le désert, même s'il ne s'est pas usé, selon la promesse de Dieu. Imaginez ce beau manteau de Babylone. Extraordinaire. S'il avait pu le porter, tout le monde aurait regardé Achan et aurait dit « Waouh ! Qu'il a un beau manteau, cet homme-là » En fait, ce manteau de Babylone, c'est le manteau de celui qui a l'apparence de la piété, mais qui a renié ce qui en fait la force. C'est le manteau de Babylone. C'est le manteau de celui qui est confortable dans ce qu'il est capable de faire, dans ce qu'il a fait, ou dans ce qu'il est ou qu'il pense être, dans le personnage qu'il s'est créé autour de son vêtement, mais qui n'a pas reçu le vêtement que Christ donne, le vêtement de sa justice, le vêtement de celui qui, au départ, reconnaît qu'il est perdu et qu'il a besoin d'être couvert, d'être pardonné. Le vêtement du Babylonien. C'est parce que Achan, en réalité, a voulu saisir le plan du salut par les œuvres et par les hommes, plutôt que le plan du salut que Dieu donne. C'est pour cela qu'il a été puni et condamné, comme ayant transgressé l'alliance qui avait été faite avec Dieu. Cette histoire de vêtements, nous la retrouvons dans l'Ancien Testament et nous sommes invités par les prophètes à rejeter notre vieux vêtement, qui sont de vieux chiffons sales, comme dit le prophète, et à revêtir le vêtement que Dieu nous donne. Dans le livre du prophète Ésaïe, par exemple, au chapitre 61, le prophète nous invite à recevoir ce vêtement. Ésaïe, chapitre 61. Au verset 10, il est écrit ceci. Ésaïe, chapitre 61, au verset 10, il est écrit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Et certaines versions que vous avez peut-être entre les mains disent « Il m'a revêtu du manteau de la justice. » Voilà le manteau que nous sommes invités à recevoir. Voilà le manteau qui va faire notre nouveau personnage, le nouveau personnage de celui qui est né de nouveau en Jésus-Christ. En réalité, c'est ce manteau-là qu'il porte. La question est de savoir quel manteau nous voulons. Est-ce que nous voulons créer notre personnage autour d'un manteau en coton, en polyester, en produits mélangés? Ou est-ce que nous voulons recevoir ce manteau fabriqué par le Christ lui-même et qu'il nous donne? Dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 1er, se trouve un passage intéressant qui est en rapport avec ce que nous disons ce matin. Nous lirons le verset 7. Sophonie, chapitre 1er, versets 7 et 8. Silence devant l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Tous ceux qui portent des vêtements étrangers vont être condamnés. Pourquoi? Est-ce qu'il suffit de porter des vêtements étrangers pour être condamné? Tous les vêtements que nous portons aujourd'hui sont tous faits en Chine, n'est-ce pas? Et dans le texte biblique, il est fait référence à ces vêtements étrangers, ces vêtements qui ne sont pas les vêtements que Dieu a donnés, ces vêtements qui ne sont pas donnés par le maître de la fête. Et nous nous retrouvons bien entendu dans le même contexte que la parabole que Jésus raconte dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 22, cette parabole que nous connaissons bien, la parabole des invités. Tous ceux qui vont porter un vêtement autre, que ce vêtement que seul Dieu peut fournir, sont condamnés parce qu'en réalité, ils ont créé le personnage de celui qui se sauve lui-même par ce qu'il fait, par ce qu'il est capable de faire ou par ce qu'il croit qu'il est. En faisant référence maintenant à cette parabole que vous connaissez dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, vous vous souvenez que Jésus raconte l'histoire d'un roi qui organise un grand banquet. Et il a invité des gens à l'avance. Ils ont été avertis que ce banquet allait se préparer. Et lorsqu'il est prêt, le roi envoie ses serviteurs pour aller faire venir ceux qui ont reçu l'invitation. Et vous vous souvenez comment, au dernier moment, les uns sont occupés avec ceci, les autres avec autre chose. Finalement, aucun de ceux qui sont invités n'accepte de venir. Le roi furieux dit à ses serviteurs, « Allez ramasser tous ceux que vous trouvez, tous les impotents, tous les malades, tous les handicapés. Allez les chercher tous. » Et le texte nous dit, « Bon ou mauvais, venez tous, remplissez ma salle du festin avec tous ces gens. » Et lorsque la salle est pleine, le roi rentre pour faire l'inspection. Il y a dans les Écritures un jugement. Il est bonne nouvelle pour tous ceux qui ont mis la robe, parce que tous ces gens, qui qu'ils soient, malheureux, pauvres, malades, impotents ou non, ont tous reçu la robe pour rentrer dans la salle du festin. Et tout d'un coup, en rentrant, le maître voit quelqu'un qui n'a pas la robe qu'il avait fournie à tout le monde. Et curieusement, parce que cette personne n'a pas la robe, il est condamné, il est jeté dehors. Cette robe, elle leur a été donnée à tous, qui qu'ils soient. Mais celui-là n'a pas sa robe. Il a été mis dehors. Il portait un vêtement étranger, étranger au royaume de Dieu, étranger au plan du salut. Il ne portait pas, si vous voulez, cette robe de fin lin que le Seigneur donne à tous ses enfants et à son Église dans son ensemble par conséquent. Ainsi, le vêtement dans cette parabole est extrêmement important parce qu'il nous rappelle que nous ne pouvons pas espérer être sauvés tels que nous sommes. Nous ne pouvons espérer être sauvés qu'en recevant ce vêtement qui est l'image de ce que Christ a fait pour nous. Je ne peux pas résister à la tentation de vous lire un ou deux paragraphes extraits du livre « Parabole » écrit par Ellen White, qui reprend exactement ce dont nous parlons ce matin et le décrit très exactement. Écoutez ceci. L'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache du vrai disciple du Christ. La robe blanche de l'innocence était celle que portaient nos premiers parents quand ils furent placés par Dieu dans le jardin d'Éden. Mais le péché les sépara de Dieu et la lumière qui les enveloppait s'évanouit. Honteux de leur nudité, ils essayèrent de remplacer ces vêtements célestes par des feuilles de figuier qu'ils cousirent ensemble. C'est ce que tous les transgresseurs de la loi de Dieu ont fait depuis le jour de la désobéissance de nos premiers parents. Ils ont cousu, eux aussi, des feuilles de figuier pour cacher leur nudité, résultant de leur transgression, s'affublant ainsi d'habits de leur propre imagination par leurs bonnes œuvres en vue de se rendre agréable à Dieu. Mais ce travail est vain. Ceux qui sont assis avec Christ et ses anges au repas des noces de l'agneau ne seront pas revêtus d'habits de feuilles de figuier ni de ceux de la mondanité. Seuls les vêtements qui nous ont été préparés par le Seigneur pourront nous faire accepter par lui. Cette parure qui est la robe de justice divine, sera donnée par le Christ à tous ceux qui se repentent et qui croient. « Je te conseille, disait-il, d'acheter de moi des vêtements blancs. » Tissée sur les métiers du ciel, cette robe n'a pas un seul fil de sagesse humaine. Dans son humanité, Jésus forma en effet un caractère parfait qu'il veut nous communiquer. Le cœur de celui qui se soumet au Christ s'unit à son cœur. Sa volonté se fond avec la sienne et son esprit s'identifie au sien. Ses pensées sont captives de sa volonté. En un mot, il vit de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu de sa justice. Alors aujourd'hui, de quels vêtements voulons-nous être revêtus? Il y a dans le monde et dans les marchands de religion des vêtements de toutes sortes. Un seul peut nous sauver, c'est celui que le Christ nous offre. Et aujourd'hui, alors que nous allons nous présenter devant cette table, ce repas symbolique du Seigneur, c'est pour nous l'occasion de recevoir ce vêtement-là, justement, cette robe de justice, par laquelle le Seigneur nous couvre et nous pardonne et nous restaure. Non seulement en nous accordant son pardon, mais en nous accordant la force et sa grâce pour continuer le chemin sur cette même lancée. Aujourd'hui, le Seigneur nous offre ce vêtement. Nous sommes invités à le prendre parce que simplement nous n'en sommes pas dignes et nous sommes venus ici précisément parce que nous avons reconnu le besoin qu'est le nôtre de ce vêtement. Il nous est aujourd'hui offert. Saisissons-le. Amen.